France Inter.
Oui, bonjour Patrick de la Basse-Serre aux Pyrénées. Je viens réagir par rapport à votre émission là, et par rapport au râleur là sur ces jets de soupe là sur les tableaux. On a peut-être la réponse d'un artiste, Giacometti, qui disait que dans un incendie entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat. Entre l'art et la vie, je choisis la vie. Et ben voilà, l'incendie on l'a. Hein. C'est la planète là qui brûle en ce moment. Allez, courage, on continue.
Bonjour, Frédéric de Rennes et de Perpignan. À propos de l'émission sur la désobéissance civile, je pense qu'elle est absolument nécessaire. Il n'y a rien d'irresponsable. L'irresponsabilité, c'est de ne rien faire face à la catastrophe qui va nous tomber dessus. Ce n'est pas grave de lancer un produit alimentaire sur une vitre, dut-il y avoir Van Gogh de l'autre côté de la vitre. Il est possible, je pense, même que toutes ces personnes qui se sont offusquées de ce geste, après, ont réfléchi et ont certainement relativisé la gravité, mais peut-être ont compris l'état d'angoisse que vivent les jeunes face à l'avenir qui leur est promis avec cette catastrophe climatique qui arrive. Que reste-t-il à faire quand les gouvernements du monde entier ne réagissent absolument pas, ne font rien, ni en France, ni en Europe, ni nulle part? Oui, la désobéissance civile, c'est certainement la seule chose qui reste, et il n'y a rien d'infantile à ça, bien au contraire. Au revoir.
Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre, je suis tout près de Lyon. Ce vendredi 26 avril, cela sera la commémoration de la catastrophe de Tchernobyl 38 ans après. C'était le 26 avril 1986. Aussi, nous serons très nombreux à nous retrouver pour un rassemblement contre le nucléaire et pour dire non à la politique actuelle du gouvernement Macron qui veut encore plus de nucléaire, notamment des nouveaux réacteurs EPR, dont deux au Bugey. Alors tous sur le pont Wilson à partir de midi ce vendredi 26 avril. Et merci pour votre émission.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à toute l'équipe de La Terre au Carré. C'est Olivier du groupe national de surveillance des arbres à Lavore dans le Tarn. Ce vendredi, donc 26 avril, nous avons le plaisir d'accueillir le président de l'association Arbres Remarquables de France qui va descendre à Saïs dans le Tarn à 18h pour remettre le label de l'arbre remarquable à Majot, qui est le grand platane qui a été défendu par les écureuils pendant plusieurs semaines face à des abattages illégaux. Voilà, donc on vous invite tous à nous rejoindre au site du bois de la Crémade à Saïs pour la remise de ce label. On vous attend nombreux et puis on sera toujours là pour préserver les arbres et le vivant. Merci à vous.
Et merci pour votre message et salut aux écureuils. 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur. Vous pouvez bien sûr nous appeler pendant tout le week-end. Au menu de notre club cet après-midi, d'abord l'histoire d'une expression qui s'est imposée dans les médias français et dans le débat public, celle de l'urgence climatique. Bonjour Iris Villou.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication et vous avez consacré votre sujet de thèse à cette expression pour en connaître le cheminement et c'est ce que vous allez nous raconter dans un instant. C'est un jeune engagé, créateur de contenu et qui tente de motiver sa génération à agir pour la planète, Johan Reboul, bonjour.
Bonjour.
Le jeune engagé, c'est donc le nom de votre compte Instagram dans lequel vous donnez plein de clés pour comprendre concrètement le mouvement écologique et pour surtout y prendre part. On en discute avec vous dans la deuxième partie. Et puis son métier à lui est de plonger, de photographier, de rapporter des images d'un monde qui reste encore largement mystérieux, celui des fonds sous-marins. Bonjour Laurent Balesta.
Bonjour.
La galerie Blin plus Blin à Paris expose à partir d'aujourd'hui 20 photos que vous avez réalisées dans les mers du monde entier. L'occasion de réfléchir avec vous au rôle qu'un photographe peut avoir aujourd'hui au cœur de la crise de la biodiversité. Cet entretien avec Laurent Balesta a été enregistré hier après-midi. J'attends comme tous les jours vos questions, vos messages pour nos invités. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Juste avant 15h, le jour où, le rendez-vous d'Anaël Verzo. Aujourd'hui, sa rencontre avec Dominique Piriot qui va nous raconter le jour où elle a décidé de tout plaquer pour devenir bûcheronne. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisé par Valérie Ayestaraï, dossier préparé aujourd'hui par Romane Lévy et Joël Levert avec Florian Dorimi à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, est vraiment une immense injustice, c'est la manière dont on va pouvoir faire face à l'urgence climatique. Ma génération et les générations qui arrivent vont payer le prix des politiques qui sont prises et des décisions qui sont prises aujourd'hui. Et nous ne pourrons pas revenir sur ce qui va être fait aujourd'hui. On va continuer à en payer les conséquences. Et c'est pour ça que j'essaie, encore une fois, d'expliquer dans ce livre ce que ça veut dire urgence écologique.
La journaliste Salomé Saquet, c'était en mars 2023 dans Quotidien de Yann Barthès. On parle donc de cette expression urgence climatique avec vous, Iris Villoux. Vous êtes donc doctorante en sciences de l'information et de la communication au Charisme, c'est ça ? C'est le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Et c'est au sein de l'université Paris-Panthéon, Assas. Et vous êtes donc intéressée à l'itinéraire, en fait, de cette expression pour cette thèse que vous réalisez en ce moment. Et vous avez signé à ce propos un article sur le site de The Conversation, qu'on peut d'ailleurs lire sur le site actuellement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de consacrer votre thèse à cette expression d'urgence climatique ? Comment ça démarre comme ça un projet ?
En fait, c'est un projet qui démarre d'un étonnement, comme c'est le cas, je pense, pour beaucoup de chercheurs et de chercheuses en sciences humaines. Bon, il faut peut-être quand même dire que j'avais un intérêt déjà marqué pour les alternatives, les initiatives citoyennes, créer du collectif en essayant de lutter pour plus de justice sociale et environnementale. J'avais un œil là-dessus. Et à l'été 2021, j'ai été, pendant les incendies qui ont ravagé la planète, j'ai été très surprise de noter que la couverture médiatique réservée à ces événements était comme saturée de l'expression « urgence climatique ». Et j'ai eu l'impression que c'était nouveau, ou presque inédit.
Sur la saturation justement de l'expression, sur le fait qu'elle soit là très très présente dans les médias, il vous semblait qu'il y avait tout d'un coup une émergence du thème.
Voilà, je ne l'avais pas vu arriver. Ouais. Or, quand même, parler d'urgence climatique, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parler de réchauffement, de changement ou de dérèglement climatique. Dans l'urgence climatique, on entend l'urgence à agir. Cette expression, elle a une dimension performative et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. J'ai eu envie d'essayer de comprendre à quel moment elle s'était véritablement imposée dans le débat public, par quels énonciateurs elle avait été forgée, à quoi ça sert.
Ouais, donc c'est tout son itinéraire au fond, hein, à cette expression que vous avez souhaité suivre et que vous suivez d'ailleurs toujours, hein, parce que vous êtes encore dans ce travail de thèse. Vous en avez pour combien de temps là, a priori ?
Alors ça travaille en cours, ça fait bientôt 2 ans et demi que je travaille sur le sujet. Mes financements continuent jusqu'à l'été et ensuite c'est à moi de me débrouiller pour finir ce travail.
Bon, en tout cas déjà vous allez nous en donner quelques éléments, hein, parce qu'évidemment il n'y a pas encore la conclusion de votre travail. À quel moment ce terme vraiment fait ses premières apparitions dans la presse française, parce que vous avez travaillé, vous, là-dessus, hein, en regardant des articles.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que bon, la toute première apparition de l'expression, c'est 1997 dans la presse française. Mais à ce moment-là, c'est pour parler de situations météorologiques extrêmes qui sont pas du tout ramené à un changement climatique global. Il fait très chaud, il fait très froid, on parle d'urgence climatique. Et en gros, c'est comme ça jusqu'en 2006.
Mais donc là, 97, vraiment point de départ. Voilà. Hein, et ensuite, ça va monter un petit peu tranquillement.
Voilà, au début des années 2000, ça reste quand même très discret. Et puis la première explosion, c'est 2009, où là on est à 400-500 occurrences sur l'ensemble de la presse française. Bon, quand on sait que dérèglement, c'est... réchauffement, pardon, c'est 12 000 occurrences sur l'année, 400-500, ça semble rien du tout. Oui. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'amorce à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui se passe alors, justement, en 2009 ? Il y a un événement particulier qui fait que, précisément, on emploie beaucoup ce mot-là dans les médias ?
Alors, en 2009, il y a les accords de Copenhague. Oui. Mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi, tout à coup, on cadre le problème du réchauffement climatique avec la temporalité de l'urgence. En fait, c'est des associations, des collectifs écolos qui vont se mobiliser et qui vont organiser des soirées, des événements qui portent ce nom. Et c'est aussi grâce au travail d'un collectif qui s'appelle Urgence Climatique Justice Sociale et qui est en fait le regroupement de plein d'autres ONG et de partis et qui coordonne des mobilisations autour de Copenhague. Et l'idée, c'est de mettre à l'agenda ce cadrage de l'imminence, de la nécessité de se mettre en action immédiatement.
Yoann Reboul, est-ce que c'est un mot que vous employez beaucoup sur votre compte Instagram, ça, l'urgence climatique ?
Exactement, oui, c'est un mot qu'on emploie souvent. Et c'est aussi chez les jeunes, en fait, des messages que je reçois et qui me parlent de cette urgence. Et je pense que dans notre génération, on est assez impacté parce qu'on a un peu peur sur l'avenir. Et donc, l'urgence est rattachée à l'urgence d'agir, comme tu l'as évoqué. Et ça, c'est hyper important.
Ouais. Et ce terme, justement, aujourd'hui, vous avez le sentiment que tout le monde s'en est emparé un petit peu ou pas ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, et je pense qu'on le voit aussi avec les aléas climatiques qui deviennent de plus en plus intenses, on l'a vu en France les deux derniers étés qu'on a passés qui ont été assez violents, je pense que petit à petit, la prise de conscience, elle s'agrandit et il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de cette urgence. L'urgence d'agir, je sais pas, je suis pas sûr encore.
Iris Villou, sur ce terme, donc cette expression d'urgence climatique, ce sont d'abord les écologistes qui brandissent au fond ce terme avant même que les politiques ne s'en emparent.
Alors, ce qui est aussi intéressant au début des années 2000, quand elle commence à apparaître encore très discrètement, c'est que, en fait, c'est plusieurs groupes d'acteurs qui s'emparent de l'expression à peu près en même temps et qui la poussent simultanément dans le débat public.
Et c'est des acteurs de l'écologie, a priori ?
Alors, on a des acteurs tout à fait, Greenpeace, par exemple, ou des personnalités politiques, France Gamère pour Génération Écologie, Dominique Voynet pour Les Verts, qui s'emparent de cette question. Mais il y a aussi d'autres acteurs qu'on attendait moins.
Ouais, lesquels, par exemple ?
Eh bien, par exemple, en 2001, qui est la première occurrence de l'expression pour désigner le changement climatique global, donc c'est plus une urgence climatique localisée, circonstancielle. Le premier qui en parle comme ça en 2001, c'est le ministre de la Recherche de Jacques Chirac, Roger Gérard Schwarzenberg, qui fait une série de discours à l'occasion du lancement d'un satellite dans l'espace qui doit surveiller les mouvements océaniques.
Ah bon, et c'est quoi le lien avec l'urgence climatique alors entre le satellite et l'urgence ?
En fait, ce satellite s'inscrit dans un programme de recherche plus global sur le changement climatique et il est lié aussi à El Niño, qui est un courant océanique qui a fait des ravages quelques années auparavant et dont le souvenir est encore très fort.
Donc c'est un satellite de surveillance au fond des océans, dans ce cadre quand même aussi du changement climatique.
Et du coup, pour le ministre, à ce moment-là, parler d'urgence climatique, ça lui permet de cadrer un problème et d'y répondre instantanément. Voilà, on a un enjeu, c'est El Niño, il faut surveiller les mouvements océaniques. Problème d'urgence climatique, pas de problème, j'envoie mon satellite et j'y réponds.
Et c'est un ministre de Chirac, donc ça fait écho aussi à une célèbre formule de Jacques Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », parce qu'il y a aussi ce lien qui se fait au fond.
Oui, tout à fait. Alors cette formule, c'est en 2002. Que Chirac la prononce, mais il a déjà à son actif quelques discours assez engagés sur l'écologie et il a déjà d'ailleurs utilisé la question de l'urgence, bon, pas l'expression urgence climatique véritablement, mais du coup pour son ministre c'est aussi une manière de s'inscrire dans cette stratégie de distinction qui est celle de Chirac qui veut se montrer comme président agissant pour l'écologie.
Mais probablement que Nicolas Hulot lui avait déjà soufflé à l'oreille cette formule en tout cas de la maison brûle qui l'a servi donc effectivement un an plus tard. Greenpeace, donc vous le dites, un certain nombre de mouvements, des politiques qui s'en emparent. À partir donc de 2009, ça commence à changer. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a une diffusion encore plus large de l'expression, là, c'est ce que vous disiez ?
Oui, tout à coup, dans la presse en tout cas, l'expression émerge de plus en plus. Donc grâce à l'action dont je parlais tout à l'heure, coordonnée de ces collectifs qui se mobilisent autour de Copenhague, et aussi de manière un peu plus surprenante, il y a en 2009 la Transat Jacques Vabre, et parmi les bateaux qui concourent, il y en a un qui s'appelle Urgence Climatique. Ouais. Et en fait, c'est le résultat d'un partenariat entre les skippers, Victorien Hérussard et Loïc Fekay, qui se sont associés avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, et ils ont décidé de rebaptiser un bateau Urgence Climatique.
Ouais.
Donc il y a des tas d'articles de presse qui parlent de l'urgence climatique, mais en fait...
Par le bateau. Exactement. Et alors du point de vue politique, il y a quand même aussi le Grenelle de l'environnement, la loi Grenelle 1 en 2009, ça vous le racontez aussi, qui va finalement entériner la notion d'urgence climatique aussi à ce moment-là.
Oui, alors dans le Grenelle, c'est urgence écologique qui apparaît et c'est une formule qu'on doit à Nicolas Hulot qu'il a commencé à publiciser et avec sa lettre ouverte et ensuite avec le pacte qui fait signer aux candidats à l'élection présidentielle qui va engager d'ailleurs Nicolas Sarkozy à lancer le processus du Grenelle.
Et donc voilà, on a effectivement ce terme qui est repris et qui est là validé par un texte de loi effectivement, mais c'est l'urgence écologique, mais la notion d'urgence est toujours là, effectivement. Oui. Alors, ce que vous expliquez dans cet article de The Conversation, c'est que finalement, cette expression, elle échappe maintenant quasiment, en fait, à ce qu'elle voulait viser au départ. À force de se diluer, au fond, dans le discours public, elle est banalisée. C'est presque ce que vous analysez, vous ?
Bah, moi, c'est mon interrogation de départ, c'est de me dire quand il y a une expression qui tout d'un coup explose, se massifie à ce point-là et qui vient complètement saturer le débat public, est-ce que finalement elle n'a pas perdu sa force de frappe initiale ? Quand on a des personnalités politiques qui parlent d'urgence climatique, on a même Total qui est quand même sur son site internet, il y a 13 documents qui mentionnent l'urgence climatique, on se dit que ça ne veut plus rien dire.
Ouais. Et donc vous pensez que c'est un mot déjà qui a perdu en vitalité, on pourrait presque dire les choses comme ça ou pas ? Est-ce qu'il est toujours efficace en tout cas ? à force d'être utilisé comme ça.
Ben, j'en doute, mais en vérité, c'est pas vraiment à moi d'en juger. Et quand j'en discute avec des militants et des militantes, c'est intéressant d'avoir leur point de vue là-dessus. Certains et certaines disent que l'urgence climatique, elle est réelle, elle est en accord avec les discours de la science, elle est mobilisatrice et il faut continuer à l'utiliser. Il n'y a pas de meilleure manière que de parler de ce problème. Ça permet aussi d'amener quand même la question de l'inertie climatique, la temporalité compliquée du changement. Et d'autres qui me disent, ben, en fait,
Ça fait 10 ans qu'on dit que c'est urgent. Ouais. Donc ça banalise complètement le propos. Johan Reboul, vous avez ce sentiment-là aussi ou pas?
Oui, mais je me dis, est-ce que c'est pas une bonne chose justement que tout le monde s'empare de ce sujet-là et parle d'urgence? Après, il faut faire attention justement avec ce greenwashing qu'on voit à Total, où j'imagine des politiques aussi qui surtout fonctionnaient dans l'urgence, et les politiques aiment bien ça, répondre tout de suite à une problématique, alors qu'on le sait, le dérèglement climatique, c'est des mesures qui doivent être prises aujourd'hui, mais sur le long terme. Donc est-ce que utiliser l'urgence, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est bien de l'utiliser de la manière dont...
C'est surtout une urgence qui, effectivement, commence à durer, là, un petit peu.
Oui, c'est ça, on a du mal à y croire.
Ouais. Et alors, justement, d'autres soulignent l'angoisse, la démobilisation qu'une telle formule aussi peut susciter. Est-ce que vous avez ce sentiment, Johan Reboul, que ça peut être aussi un peu repoussoir?
Oui, je pense que je reçois aussi beaucoup de messages de jeunes qui sont un peu découragés, qui ont peur. On parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment. Et ça peut aussi... Il y a deux versions. Ceux qui ont envie d'agir parce qu'ils disent, là, il y a l'urgence, il faut y aller. Et d'autres qui disent, bon, c'est trop tard, en fait. On va tous brûler et ça sert à rien de se battre. Donc je pense qu'il y a différentes manières de parler d'écologie, justement. Et moi, j'utilise l'humour pour justement essayer de contrer un peu cette urgence. Elle est là, l'urgence, j'en parle, mais d'une autre manière pour justement essayer de ne pas angoisser trop tout le monde.
Ouais, Iris Vilou, vous écrivez quand même, l'expression donc urgence climatique semble avoir échoué pour l'instant à transformer de manière significative l'action publique, parce que c'est quand même ça, in fine, qui est important. Hein. Et donc vous observez que les résultats ne sont pas au rendez-vous?
Ben, je me dis que voilà, l'expression, elle apparaît au début des années 2000, on est en 2024, on parle toujours d'urgence climatique. Ça fait un peu douter sur la performativité de cette expression. Est-ce que vraiment elle a réussi à nous mettre en mouvement à la hauteur des exigences? J'en suis pas sûre. Et ce qu'on peut déplorer, c'est que je pense qu'elle avait une force motrice potentielle à l'origine, puisqu'on peut se dire que dire l'urgence à agir, c'est déjà se mettre en mouvement. Mais quand elle est utilisée par des partisans de l'immobilité, elle est comme neutralisée.
Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres expressions qui vont émerger ou qui sont déjà en train d'émerger dans le discours de l'écologie ou pas? Vous avez repéré des choses ou pas? Johan Reboul?
Non, je n'ai pas encore
vu... Est-ce qu'il y a des nouveaux mots qui s'imposent? Parce qu'on les remarque en général quand ils arrivent comme ça.
Pour l'instant, non. On parle encore beaucoup d'urgence. On a vu aussi le passage de changement à dérèglement climatique pour vraiment englober toute la situation qui est en train de se produire. Mais sur le mot urgence, pour l'instant, il n'y a que celui-là qui...
Il y en a qui ont tenté, en tout cas, Iris Vilou, à parler plutôt de compte à rebours, ces dernières rénovations que vous citez. Plutôt que de parler d'urgence, on se met à compter en fait les jours qui nous restent.
Oui, c'est une...
Ça a été un choix.
C'est une stratégie qui est celle de dernière rénovation, notamment, qui essaye de mettre en avant le peu de jours qui nous restent avant de nous mettre, enfin, d'être face à une catastrophe inéluctable. Ouais. Bon, ça, c'est une stratégie. Il y a d'autres militants, militantes qui trouvent que c'est pas forcément la meilleure manière de passer à l'action, de pousser à l'action, d'encourager, que ça peut être démobilisant.
Et vous pensiez à une autre expression ou pas?
Oui, je pensais là qu'on voit apparaître, bon c'est pas très nouveau non plus, mais chaos climatique, crise climatique, mais qui sont aussi des expressions critiquées pour d'autres raisons.
Et vous avez encore quelques années à travailler en tout cas sur l'urgence climatique, donc autant qu'elle reste dans le débat public, parce qu'elle va vous accompagner encore, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez chercher à savoir exactement autour de l'expression? Vers quoi ça vous mène, cette thèse?
Vers quoi ça me mène
En tout cas, s'il faut déjà penser à la conclusion de la thèse en elle-même, là, sur ces deux années qui vous restent à étudier.
Pour l'instant, j'ai quand même plus de questions que de réponses. Ouais. Là, l'idée, c'est d'aller jusqu'en 2020, de regarder comment l'expression elle a circulé entre les différents discours militants, médiatiques, politiques, de voir comment, pour les militants, elle peut être une justification de différentes ou de nouvelles stratégies d'action, de mode opératoire. C'est l'urgence et du coup, on se mobilise de cette manière-là. Et de voir aussi comment elle est réutilisée, réappropriée par des personnalités politiques, et que son sens est un peu dévoyé, peut-être.
En tout cas, on peut lire cet article qui est sorti sur le site de The Conversation, Urgence climatique, itinéraire d'une expression. C'était votre première radio, Iris Vilou, bravo.
Merci.
On était ravis de vous accueillir, vous restez avec nous, vous pouvez souffler un grand coup. Et dans un instant, un jeune engagé, Johan Reboul.
Pendant l'été, et les envies que je tuais. C'est là qu'on s'est aimé pour la première fois.
C'était la voix de Pomme sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Faut que t'imagines, en 6 mois, on est passé en Égypte, en Arabie Saoudite, à Oman, en Turquie, en Inde, au Népal. Enfin, c'est énorme et on savait même pas tenir une caméra au début du voyage.
Mais le pire, c'est qu'on se connaissait même pas avant de partir.
Tu saurais dire combien de trains on a pris en 6 mois?
Bah ça, je ne saurais pas te dire. On a tellement pris de trains, de bus, de covoiturage. Je pense qu'on a besoin de plus d'un appel pour se souvenir de tout ça. Mais ça tombe bien, on a un documentaire qui sort très vite.
Le jeune engagé, c'est un compte Instagram qu'on vous présente cet après-midi avec son auteur, Johan Reboul, et la voix de Victoria qu'on entendait. On peut bien donner sûr. Son nom de famille d'ailleurs,
oui,
aussi.
Oui, Guillaume.
Voilà. Et vous êtes partis donc ensemble pour un tour du monde, c'est ça?
Oui, on peut dire
quasiment.
Ça. Oui, quasiment. Une petite boucle jusqu'en Inde.
Oui. Tout ça sans prendre l'avion.
Oui, on a essayé en tout cas de sans avion et on a été bloqué à Oman. Et donc là, on a dû faire la petite portion Oman-Inde. Mais sinon, tout le reste où on nous avait dit c'est impossible de rentrer d'Inde sans avion et on l'a fait.
Vous l'avez fait. On va en reparler dans un instant de ce périple et de ce documentaire donc que vous êtes en train de monter en ce moment. Vous qui tentez de motiver votre génération à agir pour la planète, c'est ça l'idée aussi du jeune engagé?
Oui, c'était vraiment l'idée derrière le jeune engagé, essayer de mobiliser et justement de rassembler autour de l'humour, essayer d'aller convaincre des personnes qui sont pas forcément sensibles à ces questions-là et aller les chercher sur Instagram, sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, et d'essayer de les convaincre, de montrer que l'écologie, ça peut être sympa. Ouais. C'est pas forcément que contraignant et chiant.
Ouais. Iris Vilou, ça pourrait être un autre sujet de thèse, d'ailleurs, l'humour dans l'écologie. Hein. Ça doit être fait, d'ailleurs, j'imagine, que certains penchent là-dessus, parce que c'est aussi un bon vecteur pour parler d'urgence climatique, non?
Oui, si c'est pas déjà fait, il faudrait s'y mettre, effectivement.
Absolument, on va se renseigner. Votre premier poste, Johan Reboul, remonte au mois de juin 2019. Vous vous souvenez de quoi il parlait ou pas?
Non.
Vous qui en avez tellement depuis.
Ouais,
c'était sur les mégots de cigarettes.
Ah oui, j'ai commencé. Ouais, mon compte Insta, c'était. Mais j'ai d'abord commencé avec un site internet et une page Facebook. Puis après, j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait plus grand monde sur Facebook. Et c'est pendant le confinement que je me suis déplacé.
Là, c'est sur Insta, Insta, ouais. Donc les mégots de cigarettes, 69 likes.
Ah. Vous êtes remonté très loin.
Exactement, ça a commencé modestement. Comment vous avez démarré alors exactement cette plateforme du jeune engagé alors?
En fait, mon engagement à moi, il a commencé à mes 16 ans, Quand j'ai découvert, j'étais en cours de maths et j'étais sur Twitter, c'est pas très bien, mais j'ai découvert le hashtag Nutella tue les orang-outans. Et en fait, j'ai vu ces images de déforestation massive en Indonésie, en Malaisie. Et ça m'a vraiment impacté parce que j'étais un grand consommateur de pâte à tartiner. Mm-hmm. Et je me suis dit, là, je peux pas rester les bras croisés, il faut que j'agisse. Et j'ai lancé deux pétitions.
Donc vous avez 16 ans?
Ouais, c'est à 16 ans, et je me dis quel moyen pour rassembler des personnes autour de ce sujet. J'avais envie qu'on en parle, j'avais envie de tout casser. Et je lance deux pétitions contre deux marques très connues des Français, Lu et Nutella, pour leur demander de retirer l'huile de palme de leurs produits. Mm-hmm. Et en fait, j'ai vu l'impact que ça a eu, parce que ces pétitions ont été signées des 250 000 fois chacune. Et il y a eu vraiment un débat qui a été lancé autour de l'huile de palme. Et le moment où j'ai réalisé que j'avais de l'impact, c'est quand une des deux marques a pris le téléphone et elle me dit « À quoi tu joues ?»
Laquelle
C'était Lu. Et on a passé une heure au téléphone.
« À quoi
et
tu joues ?» Ah oui, donc il y avait un peu de menace quand même dans l'appel.
C'était un peu tendu parce que je pense qu'ils ont essayé de me décourager. Ils se sont dit, c'est un jeune de 16 ans, il y connaît rien, on va l'amadouer et bon, on passera à autre chose. Et en fait, j'avais vachement bossé mon sujet et c'est ça que j'ai voulu montrer aussi. On peut être jeune et on peut bosser des sujets et vraiment s'engager. J'avais contacté des associations en Indonésie, donc je me suis pas laissé faire avec leur huile de palme durable noire. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je peux avoir un impact en tant que jeune. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai créé le Jeune Engagé, dans cette idée de montrer à d'autres jeunes, en fait, que c'était possible. Le jeune engagé, c'est pas que moi, c'est tout le monde peut être jeune engagé. D'ailleurs, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. C'est pas une question de génération. Tout le monde doit se bouger pour le
tout climat. Ça en renonçant à la pâte à tartiner, alors?
Exactement. Mais j'ai découvert plein d'autres pâtes à tartiner, comme Papa Outan, qui est délicieuse. Donc, pourquoi je me prive en rien? Et c'est ce que j'essaye de montrer sur les réseaux sociaux, c'est que on peut vivre de manière écolo et se priver de rien et de vivre. Je suis très heureux dans ma vie et c'est ça que j'essaye de montrer sur Insta aujourd'hui.
Ouais, donc pas d'éco-anxiété chez vous ?
Ça arrive, il y a des moments plus difficiles que d'autres, quand on voit des catastrophes naturelles qui se répètent, il y a des moments où ouais, le moral est pas très bon, et c'est difficile, parce que maintenant sur Insta, j'utilise l'humour pour parler de ces sujets-là, mais quand moi, j'ai pas envie de rigoler, c'est difficile de trouver les bonnes blagues, donc des fois, je prends aussi du recul, hein. Je peux pas être toujours connecté sur les réseaux, et de prendre du temps pour soi, et on parle beaucoup d'épuisement militant. Il faut savoir aussi s'écouter soi et bien évidemment il y a des moments où on déprime en vue de ce qui se passe et de l'inaction politique aussi qu'il y a.
Parmi les vidéos qui ont le mieux marché sur Instagram, parce qu'on parlait des 69 likes du premier post, hein, mais alors depuis ça a cartonné, il me semble, parce que j'ai essayé de faire le tour de toutes vos vidéos, que c'est celle sur le climato-scepticisme qui a réuni le plus de monde.
Oui, une des plus récentes, parce qu'il y a une, j'ai parlé de la Coupe du Monde au Qatar il y a un an maintenant, elle avait aussi beaucoup tourné, mais oui, souvent quand je parle de sujets un peu touchy encore dans la société, quand je parle de viande, quand je parle de climato-scepticisme, quand je parle de ces sujets-là, il y a beaucoup de réactions.
Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en réalité ? Vous avez compris le mécanisme ou pas sur ces vidéos ?
Sur ces vidéos, il y a plusieurs choses qui fonctionnent. Déjà, je réutilise des musiques qui sont en tendance sur Instagram. Donc, c'est des musiques que les gens ont déjà écoutées. Et en fait, l'algorithme d'Insta va mettre en avant ces vidéos. Et en fait, moi, dans la musique, il y a un fond écologique parce que je parle d'un message. Donc ça, déjà, je hack un peu le système d'Instagram pour parler de ces sujets-là. Et après aussi, les nombreuses réactions, et c'est assez drôle parce que des fois, j'ai beaucoup de réactions négatives, de climato-sceptiques, on dit que je raconte n'importe quoi, etc. Et ben, ces personnes-là font grossir ces vidéos.
Ça nourrit la communauté,
c'est ça. Et de plus en plus de personnes vont regarder les vidéos. Ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant, les haters, comme on les appelle, ceux qui critiquent, parce que justement, je me dis, ils sont pas sensibles à ces questions-là. Donc, cette vidéo, elle a mis une petite graine dans leur cerveau. Peut-être qu'elle germera un moment et qu'ils s'engageront. Peut-être pas, mais voilà, c'est un
début. Est-ce que vous arrivez d'ailleurs à aller au-delà des commentaires sur Instagram? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une discussion? Parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup à Twitter en particulier, où maintenant c'est tellement clivé qu'en fait les gens n'arrivent même plus à se parler. Est-ce que sur Instagram, même sur des haters, vous arrivez quand même à dialoguer et à pouvoir prolonger en fait
C'est ça que je trouve assez intéressant sur Instagram. Il y a vraiment des débats. Ils sont pas tout le temps hyper violent, où on voit des grosses critiques, etc. Mais il y a des fois où ça se passe bien aussi, où les gens débattent, ils sont pas d'accord sur les termes, sur des petits points. Moi, je dialogue aussi avec beaucoup de personnes qui, quand c'est pas juste purement méchant, là, il y a rien à faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de débats, et l'idée de cette communauté maintenant sur Instagram, c'est de pouvoir débattre et de pouvoir aussi avancer ensemble, parce que je me dis pas, j'ai encore plein de choses que je dois apprendre, et ma communauté me sert à ça aussi.
Iris Vilou, quand on est comme vous en train d'écrire une thèse, on va beaucoup sur les réseaux sociaux justement pour voir ce qui se passe, surtout autour de ce terme d'urgence climatique. Est-ce que vous allez sur Twitter par exemple pour essayer de comprendre ce qu'on en dit?
Alors moi je voulais échapper aux réseaux sociaux au départ, je travaille sur la presse écrite.
Ouais. Et puis... La presse de vieux quoi?
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis en fait au fil de mes entretiens avec des militantes et des militants, je me suis rendu compte que évidemment les réseaux sociaux étaient inévitables. Et donc là depuis pas très longtemps, je m'attaque à Instagram et à Twitter. Mm-hmm. Mais là j'ai juste collecté mes données et j'ai pas encore vraiment plongé dedans.
Mm. En tout cas, c'est une matière. Oui, j'imagine, tout à fait. Aussi pour vous. Autre vidéo Johan Reboul qui a très bien marché sur les structures des voyages humanitaires. Alors ça ça fait mal hein.
Ouais.
Le sujet fait mal.
C'est un sujet aussi sensible parce que il y a ces voyages humanitaires, il y a beaucoup de jeunes en fait, souvent après leurs études, qui décident de se rendre utiles et d'aller faire des actions humanitaires un peu partout dans le monde. Et là, en fait, j'ai commencé à faire des recherches sur le business de l'humanitaire. Et en fait, il y a des entreprises pas très sympathiques et très lucratives qui vont vendre des voyages en fait humanitaires à des milliers d'euros pour partir créer une école au Togo ou etc. Et en fait, l'envers du décor, c'est qu'il y a plein de projets qui sont pas finis. Il y en a plein qui réalisent sur place qu'ils ont aucune utilité parce qu'il y a déjà les structures présentes.
Il y a même des pays où on sort des enfants du foyer pour créer des orphelinats. Ouais, enfin, il y a des choses atroces qui se passent. Hein.
Ouais, ça c'est très poussé, notamment au Rwanda où il y en a eu beaucoup. C'est et au Népal, c'est de dire aux parents en fait qu'ils peuvent pas s'occuper de leur enfant, de remplir les orphelinats comme ça pour faire venir des occidentaux pour s'occuper des enfants. Donc ça c'est horrible, se dire que l'humanitaire qui part quand même d'un bon principe à la base en fait a été détruit par un business. Et donc j'ai essayé de dénoncer ce business lucratif.
Autre vidéo qui a très bien marché, celle concernant votre chienne. Alors là, pour le coup, aucun rapport avec l'écologie.
Oui, non, parce qu'il y a des moments aussi de ma vie que j'avais envie et besoin de partager. Et cette vidéo aussi, je ne m'attendais pas du tout à cet écho. Et en fait, j'ai réalisé, voilà, j'ai perdu ma chienne juste avant de partir dans ce voyage de 6 mois. Et ça a été assez dur et je ne pensais pas qu'on pouvait s'attacher autant à un animal, un animal qui ne parle pas. Et j'ai été vraiment, c'était un deuil pour moi et j'avais besoin d'en parler sur les réseaux.
Livré. Et ça a fait un carton.
Et ça a fait un carton parce qu'il y a plein de personnes qui se sont identifiées dans cette vidéo et qui ont dit, mais bien évidemment, moi aussi, j'ai vécu ça. Et c'était assez, et moi, ça m'a aidé aussi à faire mon deuil.
Quand on est créateur de contenu, Johan Reboul, est-ce qu'on est un obsédé du like hein?
Ben, on essaye de s'en détacher au maximum, mais c'est assez compliqué. C'est un peu le paradoxe. On essaye, quand on est écolo, de prôner la sobriété, etc. Et on est sur des plateformes qui poussent à créer du contenu, à jamais s'arrêter, à ce que ça marche. Et voilà, il y a un algorithme qui... Mais j'essaye de plus en plus de m'en détacher. C'est pas forcément évident, mais au maximum. Ouais.
En tout cas, il y a ce documentaire qui est en route, hein, suite à votre voyage donc en Inde, où vous êtes allé en train. Vous avez passé des heures et des heures et des heures en train pour essayer de pas prendre l'avion. Il y a juste une fois, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été obligé de le faire. Mmh. Vous êtes donc en montage en ce moment et vous allez le sortir a priori dans combien de temps?
Ça, on ne sait pas trop encore. On prend le temps justement de monter. Là, on a la première semaine de montage et on a déjà vu toutes les images. Et ça, c'est incroyable de revoir tout ce qu'on a vécu, 6 mois d'aventure dans 19 pays. C'est assez fou. Donc, on prend le temps.
On peut aller pouvoir en attendant sur votre compte Instagram qui s'appelle Le Jeune Engagé. Il est en lien évidemment sur La Terre au Carré. Dans un instant, on plonge avec Laurent Balesta. I stumbled on a miracle. I didn't know what to do. So how did you smoke? Forgot to open the flue and smoke filled up the room. Sticking with me, a lot of fish in the sea, but he's all that I need.
if I come back twice. It's nice to imagine Goldie being mine.
Goldie, c'était Hills à l'instant sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Sur France Inter.
Cent mètres. C'est rien. Mais c'est une espèce de couche opaque, lourde. 100 mètres d'eau, 100 mètres de haut. Vu depuis la Lune, c'est un mince ruban, presque négligeable. Et pourtant, on change de monde, on change d'univers. Ces 100 mètres d'eau, c'est ma Stargate à moi.
Laurent Balesta est avec nous, photographe, biologiste marin de formation. Vous avez à votre actif de très nombreux livres de photos dédiés à la vie sous-marine. Vous êtes à la tête de la société Andromède Océanologie, qui organise des expéditions de grande ampleur dans toutes les régions du monde. Et à partir d'aujourd'hui, vendredi, on peut découvrir 20 photos à la galerie d'art Blin plus Blin, c'est rue de l'Université à Paris. Des photos qui retracent finalement quasiment tout votre parcours de photographe sous-marin, depuis vos débuts jusqu'aux photos les plus récentes. C'est un peu le best-of de Laurent Balesta, quoi, c'est ça, non ?
Oui, un best-of, je sais pas. En tout cas, c'est le hasard qui fait que ça retrace, parce que l'ambition du galeriste qui sélectionne ses photos, lui, il cherche des œuvres qui soient chacune porteuse d'une émotion et qui ensuite créent une harmonie aussi, les unes à côté des autres. Et c'est le hasard qui fait que je me suis aperçu que finalement, il y avait des photos de mes tout premiers lieux de plongée, l'étang de Thau, à côté de Montpellier, à Sète, mais aussi des photos plus récentes, comme la Limule des Philippines, qui m'a valu le prix à Londres l'année dernière, ou les grandes expéditions qu'on a pu faire en Antarctique, ouais, ou en Polynésie. Donc oui, c'est vrai qu'au final, il y a un peu de ces grands voyages qui m'ont marqué.
Ouais, et donc, est-ce que c'est une entrée aussi dans le monde de l'art pour vous, le fait d'être accueilli comme ça dans une galerie? C'est la première fois ou pas?
Pas tout à fait la première fois, mais ça reste toujours un peu particulier pour moi. Je dirais pas que c'est la sensation de l'imposture quand je suis dans ces galeries, parce que secrètement j'y aspire depuis toujours. Mais voilà,
j'ai une étiquette. Vous êtes adoubé,
quoi, quand même. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. J'ai une étiquette de biologiste marin que je dois à mes 12 ans à côté de Nicolas Hulot et puis à ma formation de base aussi. Enfin voilà, j'ai toujours aimé la photographie d'art, ouais, hors du monde sous-marin. Quand mais j'étais petit, c'est surtout le dessin, la peinture qui me plaisait.
Mais vous pensez que le public, il fait la distinction entre une photo d'art et une photo scientifique? Franchement.
J'en sais rien, je sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais une photo, quand j'ai commencé la photo, c'était vraiment pour moi une façon de prolonger la contemplation. Parce que ce monde sous-marin, qu'on le veuille ou non, c'est pas le nôtre. À partir du moment où on pénètre la surface, il y a un compte à rebours et il faut sortir à un moment. Et ça viendrait pas à l'idée d'un ornithologue de rentrer dans une forêt avec 45 minutes et puis il doit sortir. Et ben, sous l'eau, c'est ça. Donc avec la photo, j'ai trouvé une façon de pouvoir continuer à regarder, à observer dans le détail, parfois des choses toutes petites qu'à l'œil nu on voit pas bien, des choses très grandes aussi qui des fois nous échappent à l'œil nu et que les photos panoramiques permettent de reconstituer. Donc il y avait ce prolongement qui me plaisait. Et naïvement, au début, c'était collectionner, quoi. Collectionner. Je ferai tous les photos de tous les poissons, puis de tous les crustacés, puis voilà. Et
mais il y avait déjà une volonté esthétique aussi dans ce travail, ou pas ?
Inconsciemment, sans doute, parce
que c'était juste l'idée d'un inventaire scientifique.
Oui, je crois que c'est j'ajoutais même pas l'adjectif, mais il y avait cette volonté d'inventaire, oui, avec même la naïveté de croire que je pouvais faire le tour.
Ouais.
Bon, voilà. Et mais je me suis aperçu aussi dès les premières photos que c'était pas juste un clic, quoi, c'était un déclic.
qui donc là c'est l'œil de l'artiste finalement.
Oui, enfin en tout cas du gamin qui aimait aussi faire des dessins, qui aimait faire des peintures, et là d'un coup j'avais un mode d'expression que j'avais pas imaginé, dans un univers où tout était, à mes yeux, encore à photographier, et je le pense encore aujourd'hui. Donc voilà, il y avait tout, un terrain d'aventure pour jouer les cosmonautes, un monde naturel à découvrir, à illustrer, et un mode d'expression, si j'ose pas dire une discipline artistique. Donc il y avait tout, donc ça m'a porté, et c'est vrai que très vite on est passé de l'inventaire, c'est-à-dire à montrer ce qu'il y a, à essayer de montrer aussi ce que l'on peut ressentir.
Et c'est facile, ça, de montrer ce qu'un être humain peut ressentir dans l'eau lorsqu'il est face à des poissons et que c'est pas lui qu'on a sur l'image.
Sans doute que non. Si on part dans l'eau avec cette idée en tête, peut-être que non. Mais il faut au contraire s'affranchir, je crois, de toute ambition et de déclencher quand vient quelque chose. Et je me suis vite aperçu d'ailleurs que là où j'ai l'impression de faire le meilleur travail, c'est précisément quand moi je suis poussé dans mes retranchements physiques. Quand moi-même je suis dans des conditions un peu extrêmes.
Par exemple ?
Par exemple, dès qu'on est très profond. Dès qu'on est très profond.
Profond, c'est quoi en plongée photographique ? C'est 120 mètres ?
Oui,
c'est
même jusqu'à. Je suis allé jusqu'à 200 mètres, quelques rares fois. Donc là, on se sent très vulnérable, on sent qu'on est en sursis, qu'on ne peut pas rester là très longtemps. Quand on rajoute à la grande profondeur le froid extrême, comme on a pu faire en Antarctique, plus un toit. Quand on est en Antarctique, on cumule tout. La profondeur, le froid et le fait qu'il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie.
Ouais.
Là, vraiment, toutes les difficultés sont réunies. Eh bien, je me suis aperçu que peut-être c'est de là que j'ai ramené mon plus beau travail. Et je crois que c'est parce que quand on prend conscience de sa vulnérabilité, que l'on est le plus réceptif. Et donc, qu'on peut peut-être faire le plus beau travail.
Et donc, l'œil serait le plus aiguisé, finalement, dans ces circonstances-là.
Ouais. Bah, en tout cas, on n'est plus dans l'introspection. Ouais. Ouais. On n'est plus dans le développement personnel.
Ah oui, ça, c'est
on n'est plus dans tout ça.
Quand on
là,
a une banquise au-dessus de la tête.
On ne peut que regarder ce qu'il y a autour de soi, se sentir minuscule. Et ça, c'est très inspirant, je trouve. Mmh. Tout à coup, des bestioles insignifiantes prennent une telle valeur parce qu'elles y arrivent.
Et la photo dont vous parlez à 200 mètres, 190 mètres, je crois, c'était au large de Nice,
oui,
c'est
oui.
ça. Et
il y a longtemps maintenant.
Qu'est-ce qu'on photographie alors à 190 mètres?
Il y a peu de choses. Il y a peu de choses, mais le peu qu'on y voit n'est jamais observé souvent. Là, c'était un modeste corail jaune qui vit qu'à grande profondeur, en tout cas en Méditerranée, que je voyais pour la première fois. Après, avec les années qui ont passé, parce que ça, c'était il y a presque 20 ans, je me suis aperçu que ces coraux jaunes profonds, ils n'étaient pas rares, mais il était rare de les visiter. Et voilà, c'est cela qui me porte et me donne envie, et qui fait que l'envie ne se tarit pas. C'est qu'il y a presque... Bon, je suis jugé parti, bien sûr, mais il y a quelque chose de légitime, presque. Ce monde sous-marin, ce n'est pas le nôtre, il n'est pas facilement accessible.
Donc vous nous donnez l'accès.
Ben ouais, je trouve qu'il faut faire ces images pour le montrer, même pour le montrer à soi-même, encore une fois, ouais. Comme quand j'étais gamin, pour prolonger cette observation.
Sauf que vous dites aussi que ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que photographier, donner accès au fond à ce monde invisible, montrer la beauté du monde, c'est aussi aujourd'hui, dans un contexte où on a... la capacité de voyager à peu près partout, quelque chose qui peut aussi desservir l'écosystème.
Oui, c'est ce que je réalise aujourd'hui. Je ne crois plus à cette idée un peu simple et trop facile de dire que, qui est un peu la libide de beaucoup d'entre nous photographes, de dire que on photographie la beauté du monde.
La beauté.
La beauté du monde et que ça va sauver, ça va faire aimer et donc respecter et que c'est bon, quoi.
Donc ça, vous y croyez plus?
Ben, plus vraiment. Si c'était le cas, les petits marsouins de mer de Cortés, les vaquitas, seraient pas en voie d'extinction, je crois qu'il en reste plus qu'une dizaine. Le rhinocéros blanc, ce serait pareil. Il y en a eu des sublimes photos de cet animal. Les pandas, enfin, tous ces animaux, ils disparaissent, c'est évident. Et c'est pas les photos qui les ramènent. Et en plus, voilà, aujourd'hui, il y a un effet de convoitise. Quand on regarde des photos sur Instagram avec une certaine addiction dont moi, le premier, j'essaie de me soigner, je vois bien que le premier réflexe, c'est moi aussi, je veux.
Donc on veut y être. On nourrit au fond.
Oui, et à une époque, tout ça restait quand même inaccessible. L'idée qui suivait la contemplation n'était pas d'y être à son tour. Aujourd'hui, oui, puis l'offre est là. Il y a toujours un tour opérateur prêt à vous emmener où vous voulez et dans les conditions les plus confortables qui soient. Donc cette photo, non, moi je ne crois plus montrer la beauté pour le protéger, montrer les horreurs pour révolter. Là, c'est pareil, il y a un ras-le-bol d'images catastrophiques, il y en a trop peut-être. Mais je crois, je ne sais pas ce que ça vaut, à une troisième voie qui est celle de montrer ni les beautés ni les horreurs, mais le mystère qu'il y a derrière la nature. Quand je fais une photo, ce que j'attends comme résultat, ce n'est pas « waouh, que c'est beau !» C'est qu'on me dise « waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Mais c'est où ? Mais c'est vivant ? Mais c'est animal ou végétal ? Mais c'est dangereux ou... Et c'est gros, c'est petit ?» Voilà, créer cette sensation de total inconnu, comme si c'était une image de science-fiction. Mmh. Et j'ai l'impression que ça peut engendrer un sentiment bien plus durable et bien plus respectueux que la simple contemplation de la beauté. Si je faisais un parallèle peut-être un peu risqué avec un peuple religieux, très religieux, amoureux de Dieu. Un peuple comme ça, quand il est fou de Dieu, il n'est pas fou de Dieu parce que Dieu est beau. Il est fou de Dieu parce que Dieu le dépasse, Dieu lui fait un peu peur, parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et ça crée du respect. Et
donc
du respect qui dure.
Vous devenez mystique.
Non, je ne deviens pas mystique, au contraire, parce que si on peut vraiment discuter du fait qu'un Dieu nous surveille, on ne peut plus discuter du fait que quand on fait n'importe quoi avec la nature et qu'elle se retourne contre nous, on est des poussières insignifiantes et elle nous dévaste, il n'y a qu'à voir les inondations, les sécheresses et tout ça. Donc, réussir à faire sentir cette nature qui nous dépasse, je crois que c'est une voie qu'il faut emprunter quand on fait des images. Et alors, le monde sous-marin nous en offre sans doute encore plus que le monde terrestre.
Vous avez perdu quelques-unes de vos illusions quand même, Laurent Balesta, j'ai l'impression, non ?
Bah, oui, mais je me pose plus, moi, la question d'être optimiste ou pessimiste. Pour moi, c'est deux fatalismes dans les deux cas. L'optimiste, il dit, non, mais ça va s'arranger, il fait rien. Le pessimiste, il dit, c'est foutu, il fait rien. Dans les deux cas, c'est de l'immobilisme. Moi, j'essaie de ne pas me poser les questions, parce que les deux sont résignés, au final. Il faut faire ce que chacun peut faire à son échelle. Moi, je fais des photos et j'explore autant que je peux, voilà.
Quand on s'était croisé en Camargue il y a quelques mois de cela, vous nous avez parlé de votre attrait pour les eaux troubles. Moi, j'aimais beaucoup cette notion d'eau trouble parce que c'est encore une invisibilité du monde que on peut.
Ouais, et que la photographie permet d'ouvrir quelquefois. D'abord parce que quand on est patient et attentif, ces eaux troubles, elles ont toujours un moment dans l'année où elles ne le sont plus, le hasard d'une météo particulière, de circonstances, et hop, tout à coup, ceux où on n'avait qu'un mètre de visibilité, tout à coup s'ouvrent, et on découvre une épave de bateau entier, colonisé par des poissons, un récif qui était caché. Voilà, ça m'a toujours passionné. Et puis avec la photographie aujourd'hui, avec les systèmes de panoramique, c'est-à-dire de recomposition, comme un puzzle, hein. On photographie chaque pièce du puzzle, mais ensuite, l'intelligence artificielle, les logiciels reconstituent l'ensemble du décor et d'un coup nous apparaît en image ce que l'œil n'a pas pu voir et qui pourtant est bien réel. Alors ça me plaît bien. C'est ce qui m'attire dans les autres.
C'est presque l'infrarouge des télescopes spatiaux.
Oui,
hein.
Sauf que comme ça ne marche pas sous l'eau, l'infrarouge, ouais. Ben, il faut quand même aller voir de près.
Dans cette exposition, donc, à voir à partir d'aujourd'hui chez Blin plus Blin, donc, cette galerie d'art rue de l'Université, on peut voir cette photo qui vous a valu donc ce prix. Vous en parliez rapidement tout à l'heure de la photo animalière 2023 décernée par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Londres l'année dernière, prix de la plus belle photo naturaliste de l'année. C'était la deuxième fois que vous receviez ce prix. Qu'est-ce qu'on y voyait alors ? C'était une photo prise aux Philippines ?
Oui, aux Philippines, un petit endroit méconnu des Philippines. C'est une île privée, donc personne ne s'y rend. Et c'est la limule. La limule, c'est un arthropode marin, c'est-à-dire c'est pas vraiment un crustacé, c'est plus proche finalement d'un scorpion ou d'une araignée que d'un homard ou d'une langouste. Ça ressemble à comme un énorme gros casque de soldat, ouais. Avec des petites pointes, avec derrière un petit abdomen et une queue pointue d'un seul bloc. C'est totalement, ça peut paraître désuet, ça vient d'une autre époque. Il n'a pas évolué depuis 100 millions d'années. Sa famille est dans les eaux depuis 450 millions d'années. C'est une relique. Mais moi, ce qui me plaît, c'est, bon, d'abord que l'animal est connu, un petit peu connu, parce que une fois par an, il sort de l'eau pour pondre sur les plages. C'est là que les limules sont connues, en particulier aux États-Unis, où ils sortent par centaines de milliers. Donc, il est connu hors de l'eau. Dans l'eau, on ne le voit jamais. Il vit dans des marécages, dans de la boue. Et on a eu la chance, avec mes camarades, de trouver un lieu où il vit dans de l'eau claire. Alors, on a pu faire cette photo. Mais ce qui est le plus fascinant chez la limule, c'est que, pour autant qu'il peut paraître complètement désuet, ne plus appartenir au monde d'aujourd'hui, il est indispensable aujourd'hui à l'être humain.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que son sang bleu qui est à la fois malheureusement ce qui fait qu'il est en danger. Son sang bleu possède une molécule qui n'existe nulle part ailleurs dans le règne animal ou végétal, qui est la seule substance qui permet de détecter en une fraction de seconde si nos vaccins, nos traitements contre les leucémies, tous les traitements qu'on injecte, sont contaminés par des toxines. Donc moi je trouve ça vraiment fascinant, très mystérieux, là aussi il y a quelque chose qui nous dépasse et qui je trouve doit nous donner cette notion de respect, c'est que cet animal qui paraît complètement pas dans l'époque et complètement indispensable à l'espèce humaine.
Mais malheureusement, il est exploité pour ça.
Et voilà. Et ça, c'est le grand paradoxe. C'est ce que je vais essayer de montrer d'ailleurs cette année avec une nouvelle expédition. On a cette relique magique, unique en son genre. Mais aujourd'hui, on en pêche 700 000 par an pour ce sang bleu. Or, il est désormais connu, même si c'est gardé secret, que les molécules de synthèse existent, mais elles coûtent un peu plus cher.
Ouais. Voilà. Laurent Balesta, on peut donc voir 20 photos de vous à cette galerie d'art Blin plus Blin, rue de l'Université à Paris. C'est à partir d'aujourd'hui. On verra également vos photos de requins pris la nuit. On en avait parlé déjà dans l'émission. Et ça permet de refaire en tout cas un sacré voyage autour de tout ce que vous avez vu et que vous nous offrez maintenant. Merci beaucoup d'être
passé. Merci d'en avoir parlé en tout cas.
Dans le club de la Terre au Carré. À bientôt Laurent Balesta.
À bientôt.
France Inter, la Terre au Carré.
Comme tous les vendredis, c'est le moment de retrouver le jour où le rendez-vous d'Anaëlle Verzo.
Je m'appelle Dominique Piriot, j'ai 67 ans. Je suis une ancienne bûcheronne. J'ai été la première femme diplômée en exploitation forestière, le diplôme qui permet de faire du bûcheronnage. Et je vais vous raconter le jour où j'ai démissionné d'un poste de fonctionnaire à Paris pour rentrer dans une école de bûcheronnage à l'essai dans les Ardennes en plein hiver. C'était le 2 février 1978. J'ai décidé d'être forestière très très jeune et les écoles étaient fermées aux filles. J'ai donc tout essayé et en 1977, il ne restait qu'une seule école que je n'avais pas essayée. C'est l'école de bûcheronnage qui était bien sûr fermée aux filles. Donc ce jour-là, j'étais chez moi. Je reçois un courrier de l'école forestière. Je l'attendais avec impatience depuis plusieurs semaines. J'étais acceptée. L'école demandait pour moi une dérogation pour qu'une fille puisse passer ce diplôme de bûcheronnage. Ma première réaction, je vais tout de suite démissionner de mon travail. Mes parents étaient très très heureux de me savoir à Paris. Nous sommes 5, je suis l'aînée, donc ils me voyaient déjà fonctionnaire, casée, voilà, en ville. Eh bien, je ne leur ai rien dit, bien sûr. J'avais 21 ans, j'étais pleine de rêves et surtout, j'étais sûre que ça allait marcher. Donc je partais en laissant tomber ma place de fonctionnaire, mon petit appartement dans le 16e, une vie plutôt confortable, pour aller en fait dans cette école que j'avais à peine aperçue près de Charleville-Mézières. J'avais une chance, donc je voulais la saisir tout de suite. Très rapidement, j'ai vu les premiers soucis arriver, des soucis très très techniques. Les chaussures de sécurité forestière, la pointure la plus petite, c'est du 40. Et moi, je chausse du 36. J'ai reçu quelques semaines plus tard une paire de mocassins à talons, mais de sécurité pour les femmes qui travaillent dans les usines. Il y a eu une autre problématique aussi, c'est ma taille, mon poids, donc je fais moins d'1m60, je ne faisais pas 50 kilos à l'époque. Les tronçonneuses aussi étaient différentes de celles d'aujourd'hui, les machines étaient plus grosses, plus lourdes. Les premières journées, on me proposait de porter ma tronçonneuse, donc c'est quelque chose évidemment que j'ai toujours refusé. Ça s'est toujours très bien passé, je n'ai jamais eu de remarques désobligeantes, plutôt une certaine admiration de la part de mes collègues, parce que j'ai toujours essayé de faire comme les hommes. Et en parallèle, j'ai passé un brevet de technicien forestier sans qu'ils ne connaissent mon identité réelle, puisque c'était par correspondance, donc je me suis présentée comme M, Piriot Dominique, un prénom très pratique. Sur mes feuilles de salaire, il était toujours indiqué bûcheron. Ce terme bûcheronne est apparu assez tard.
Dominique, qu'est-ce que ce jour a changé pour toi ?
Ce jour a tout changé pour moi, parce que je suis passée d'un avenir qui ne me plaisait pas à cette entrée dans le monde forestier que j'attendais depuis si longtemps. Ça a été un vrai bonheur et j'ai poursuivi mes engagements pour la forêt. Et puis j'ai été nommée, il y a peu de temps, administratrice à l'Office national des forêts. Et c'est vraiment un engagement aussi que je veux porter pour la préservation de la forêt en France.
C'était Annaëlle Verzo, Le jour où, mixé par Rémi Sistiaga.